Leçon 9. Les aventures.
1. Premier bivouac. Paul-Émilie Victor, le futur explorateur des pôles, raconte son premier bivouac. Le train entra en sifflant dans la gare de la petite ville. Il était 5h du matin. Il pleuvait. La pluie descendait des montagnes du Jura. La gare disparaissait dans la vapeur qui s'échappait des flancs de la locomotive essoufflée. La pluie fine, huileuse, tombait lentement. Elle brillait comme de la neige dans la lumière orange de la lampe qui éclairait mal la pancarte des mailles bleues ébréchée des cabinets hommes. Je tendis mon billet à l'employé, mal réveillé comme moi-même.
Les maisons et les rues encore endormies. La solitude d'une fenêtre éclairée. Sur mon dos, le sac pesait lourd. Je revenais d'un camp scout. La pluie rafraîchissait mon visage marqué de suie et mes genoux nus barbouillés de terre. J'avais 14 ans. Dans le jardin paternel, l'odeur des trains fit place au parfum des iris, des feuilles vertes et de la terre mouillée. Sur la pointe des pieds, pour ne pas faire de bruit sur le gravier, je passais devant les bas-reliefs de stuc qui m'effrayaient tant le soir lorsque j'étais enfant et dont aujourd'hui encore je ne comprends pas la signification. Un jardin qui me paraissait immense, complexe, mystérieux et qui, depuis longtemps, a repris des proportions normales. Les arbres ont poussé et le mystère qu'ils cachaient a disparu.
Aux fenêtres, aucune lumière. On ne m'attendait pas. En bordure de l'allée de gravier poussait un séquoia. En ce temps-là, sa pointe apparaissait à peine au-dessus du bord de la fenêtre de notre salle à manger, au premier étage. Et par-delà, nous pouvions voir, lorsque nous nous mettions à table, les collines violettes et rousses des premières montagnes du Jura. Cet arbre, aujourd'hui, dépasse de beaucoup le toit de la maison et ses branches touffues en ont dévoré la vue. Elles étaient basses et leur extrémité venait frôler le sol jonché d'aiguilles et la bordure de buis de l'allée. Elles sont aujourd'hui à plus de 2 mètres de terre.
Ne voulant pas réveiller les miens et désirant prolonger de quelques heures l'aventure, je me roulais dans ma couverture contre le tronc avec mon sac comme oreiller. Longtemps j'écoutais l'arbre et savourais son odeur de résine et le parfum de la pluie sur la glaise. La nuit me cachait la maison toute proche. Je bivouaquais pour la première fois de ma vie. J'étais libre, heureux, pleinement satisfait de mon sort, de trappeur couchant à la dure avec sa traîne et ses chiens à côté de lui.
Ma mère me découvrit là, dormant à poings fermés, mouillé de la tête aux pieds. Je fus déçu de ne lire aucun étonnement sur son visage, surpris qu'elle ne me fît aucun reproche. En montant l'escalier derrière elle, je constatai combien elle était à la hauteur de l'événement. Je devais le constater bien souvent depuis. Je n'ai plus aucun souvenir du camp d'où je revenais. Trop d'autres en avaient partagé les joies et les fatigues avec moi. Mais je n'ai pas oublié l'aventure de quelques heures que j'ai vécue sous le séquoia du jardin familial. Paul-Émilie Victor, La Voie lactée, édition Julliard.
2. Une marguerite qui vole. Après son naufrage, Robinson a civilisé son île. L'auteur imagine que vendredi, le sauvage dont Robinson a fait son serviteur a, par étourderie, causé une formidable explosion. Tout le travail de Robinson est détruit et l'île est revenue à l'état sauvage.
Au cours des années qui avaient précédé l'explosion et la destruction de l'île civilisée, Robinson s'était efforcé d'apprendre l'anglais à vendredi. Sa méthode était simple. Il lui montrait une marguerite et il lui disait
« Marguerite ».
Et vendredi répétait « Marguerite ».
Et Robinson corrigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu'il le fallait. Ensuite, il lui montrait un chevreau, un couteau, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une loupe, une source, en prononçant lentement. Chevreau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, source.
Et vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot ne se formait pas correctement dans sa bouche. Lorsque la catastrophe s'était produite, Vendredi savait depuis longtemps assez d'anglais pour comprendre les ordres que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui les entouraient. Un jour cependant, Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait dans l'herbe et il lui dit « Marguerite ».
« Oui, répondit Robinson, c'est une marguerite. »
Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des ailes et s'envolait. « Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés. Ce n'était pas une marguerite, c'était un papillon. »
« Un papillon blanc, rétorqua Vendredi, c'est une marguerite qui vole. »
Avant la catastrophe, quand il était le maître de l'île et de Vendredi, Robinson se serait fâché. Il aurait obligé Vendredi à reconnaître qu'une fleur est une fleur et un papillon un papillon. Mais là, il se tut et réfléchit.
Plus tard, Vendredi et lui se promenaient sur la plage. Le ciel était bleu, sans nuages, mais comme il était encore très matin, on voyait le disque blanc de la lune à l'ouest. Vendredi, qui ramassait des coquillages, montra à Robinson un petit galet qui faisait une tache blanche et ronde sur le sable pur et propre. Alors il leva la main vers la lune et dit à Robinson
« Écoute-moi, est-ce que la lune est le galet du ciel ou est-ce que ce petit galet qui est la lune du sable ?» Et il éclata de rire, comme s'il savait d'avance que Robinson ne pourrait pas répondre à cette drôle de question.
Puis il y eut une période de mauvais temps. Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de l'île et bientôt la pluie se mit à crépiter sur les feuillages, à faire jaillir des milliards de petits champignons à la surface de la mer, à ruisseler sur les rochers. Vendredi et Robinson s'étaient abrités sous un arbre. Vendredi s'échappa soudain et s'exposa à la douche. Il renversait son visage en arrière et laissait l'eau couler sur ses joues. Il s'approcha de Robinson.
« Regarde, lui dit-il, les choses sont tristes, elles pleurent. Les arbres pleurent, les rochers pleurent, les nuages pleurent, et moi, je pleure avec eux.
Mmh, »« mmh.
La pluie, c'est le grand chagrin de l'île et de tout. »
Robinson commençait à comprendre. Il acceptait peu à peu que les choses les plus éloignées les unes des autres, comme la lune et un galet, les larmes et la pluie, puissent se ressembler au point d'être confondus, et que les mots volent d'une chose à l'autre, même si ça devait un peu embrouiller les idées. Il entra tout à fait dans le jeu quand Vendredi lui expliqua les règles du portrait, arrogant en 5 touches. Vendredi lui disait par exemple
« C'est une mère qui te perce, c'est un cuisinier qui sale ta soupe, c'est une armée de soldats qui te retient prisonnier, c'est une grosse bête qui se fâche, hurle et trépigne quand il fait du vent. C'est une peau de serpent aux 1000 écailles qui miroite au soleil. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'océan, triompha Robinson. Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage, édition Flammarion.
Vocabulaire.
Un bivouac.
Un explorateur.
Un pôle.
Siffler.
Un flanc.
La locomotive.
Essouffler.
Huileux, huileuse.
Une pancarte.
Un émail.
Ébréché.
Un cabinet homme.
Un cabinet femme.
Peser.
Un camp scout.
Rafraîchir.
La suie.
Barbouiller.
Faire place à.
Un iris.
Mouiller.
Sur la pointe des pieds.
Le gravier.
Le bas-relief.
Un stuc.
Effrayé.
En bordure de.
Une allée.
Un séquoia.
Violet, violette.
Par-delà.
Roux, rousse.
Touffu.
Dévorer.
Frôler.
Joncher.
Une aiguille.
Une bordure.
Le buis.
Se rouler dans.
Le tronc.
Un oreiller.
La résine.
La glaise.
Bivouaquer.
Pleinement.
Un trappeur.
À la dure.
Une traîne.
Le poing.
Un étonnement.
Lactée.
La voie lactée.
Une marguerite.
Robinson Crusoe.
Civilisé.
Vendredi.
Une étourderie.
Sauvage.
Voler.
Une explosion.
S'efforcer de.
Défectueux, défectueuse.
Un chevreau.
Un couteau.
Un perroquet.
Une loupe.
Donner un ordre à quelqu'un.
Nommer.
Entourer.
Palpiter.
Battre des ailes.
S'envoler.
Rétorquer.
Reconnaître.
Un coquillage.
Un galet.
S'amonceler.
Le feuillage.
Ruisseler.
S'exposer.
Le chagrin.
Se ressembler.
Au point de.
Confondre.
Embrouiller.
Entrer dans le jeu de quelqu'un.
Un arrogant.
Une touche.
Bercer.
Saler.
Retenir quelqu'un.
Trépigner.
Une écaille.
Miroiter.
Triompher.
Une autorisation.
Qui se ressemble, s'assemble.
Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu.
Lecture. Robinson dans son île. Au temps des grands voiliers et des longs voyages en mer, le bâtiment de Robinson Crusoe fait naufrage aux abords d'une île déserte. Seul survivant, grâce à tout ce qu'il trouve sur l'épave, à son expérience, à son courage, il organise sa vie dans l'île.
Au milieu de tous mes travaux, il m'arriva de trouver, en visitant mes bagages, un petit sac qui, ainsi que je l'ai déjà fait savoir, avait été empli de grains pour la nourriture de la volaille à bord du vaisseau. Non pas lors de notre voyage, mais, je suppose, lors de son précédent retour de Lisbonne. Le peu de grains qui était resté dans le sac avait été tout dévoré par les rats, et je n'y voyais plus que de la balle et de la poussière. Or, ayant besoin de ce sac pour quelque autre usage, c'était, je crois, pour y mettre de la poutre lorsque je la partageais de crainte du tonnerre, j'allais en secouer la balle au pied du rocher, sur un des côtés de mes fortifications.
C'était un peu avant les grandes pluies mentionnées précédemment que je jetais cette poussière sans y prendre garde, pas même assez pour me souvenir que j'avais vidé là quelque chose. Quand au bout d'un mois environ, j'aperçus quelques tiges vertes qui sortaient de terre, j'imaginais d'abord que c'était quelques plantes que je ne connaissais point. Mais quelle furent ma surprise et mon étonnement lorsque, peu de temps après, je vis environ 10 ou 12 épis d'une orge verte et parfaite, de la même qualité que celle d'Europe, voire même que notre orge d'Angleterre.
Comme on peut le croire, je recueillis soigneusement les épis dans leur saison, ce qui fut d'environ à la fin de juin, et, mettant en réserve jusqu'au moindre grain, je résolus de semer tout ce que j'en avais, dans l'espérance qu'avec le temps, j'en récolterai assez pour faire du pain. 4 années s'écoulèrent avant que je puisse me permettre d'en manger. Encore n'en usais-je qu'avec ménagement, comme je le dirai plus tard, en son lieu. Car tout ce que je confiais à la terre, la première fois, fut perdu pour avoir mal pris mon temps, en le semant justement avant la saison sèche, de sorte qu'il ne poussa pas, ou poussa tout au moins fort mal. Outre cette orge, il y avait 20 ou 30 tiges de riz, que je conservais avec le même soin et dans le même but, c'est-à-dire pour me faire du pain, ou plutôt diverses sortes de mets. J'avais trouvé le moyen de cuire sans four, bien que plus tard j'en ai fait un. Daniel Defoe, Robinson Crusoe.
Vocabulaire.
Un voilier.
Le bâtiment.
Une épave.
Emplir.
La volaille.
À bord de.
Un vaisseau.
Lisbonne.
Un rat.
La balle.
La poussière.
La poudre.
Une fortification.
Mentionner.
Une tige.
Un épi.
L'orge.
Dans l'espérance que.
S'écouler.
Le ménagement.
Confier.
La saison sèche.
Le mai.
Le four.